Vous êtes sur RTL.
RTL. 22h minuit, parlons-nous. Sabine Calégari sur RTL.
Bonsoir, c'est Sabine Calégari. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle soirée d'échange et de réflexion à partir de vos questions de vie. Au moment où nous sommes baignés dans des problèmes sanitaires, de santé publique donc, j'ai envie de vous parler de santé individuelle. Savez-vous que la santé est notre état naturel ? Pour garder la santé ou la retrouver, nous devons avant tout lui donner l'environnement propice, externe et interne. Avant de guérir quelqu'un, demandez-lui s'il est prêt à abandonner les choses qui le rendent malade, a dit Hippocrite, le père fondateur Hippocrate. Eh bien, quel lapsus pour commencer ! Le père fondateur de la médecine dans la Grèce antique. Parfois, ce qui nous rend malade, ce sont en nous des croyances erronées, des idées fixes, des idées sombres. C'est alors que parler peut servir à abandonner ces façons de voir qui nous mettent en souffrance pour considérer les choses sous un angle nouveau. Jusqu'à minuit, l'antenne de RTL est ouverte à tous vos sujets personnels au 09 69 39 10 11. Paul et Colin vous accueillent au standard et vous guident. Si vous préférez réagir à ce que vous entendez, c'est par SMS au 64 900 code RTL, 35 centimes par SMS ou sur notre page Facebook RTL-parlons-nous. Avec Marc Bisset à la réalisation, nous sommes prêts à commencer. Et nous accueillons Julien. Bonsoir Julien.
Bonsoir Sabine, bonsoir les auditeurs d'RTL. Je vous remercie beaucoup de m'accueillir.
Avec plaisir, de quoi souhaitez-vous
nous parler ? Parce qu'apparemment je suis la levée de rideau.
Mais oui, exactement, c'est avec vous qu'on commence Julien. Donc tout est ouvert pour vous. De quoi souhaitez-vous nous parler ?
Ben, comme j'ai dit tout à l'heure à Sarah, c'est vrai que mon départ, ma vie aurait pu être un roman. Jusqu'à il y a 8 ans, en fait, j'ai travaillé dans des studios, j'ai fait tout mon parcours. Des petits boulots de studio jusqu'à technicien et jusqu'à il y a 10 ans où j'ai entamé une carrière d'ingénieur du son qui m'a amené un peu partout. Avec des artistes connus, même dans les studios d'RTL.
Ah oui, et ben en effet, quelle boucle
du
destin.
Oui, mais ça faisait longtemps. Moi, j'étais avec Anne-Marie Pesson.
Oui.
Donc, vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui.
Mythique.
Et Max Meynier, lorsqu'il était chez Calberson, Bouvarnet. Voilà, donc vous voyez, c'est un passage. Parce que quand on est ingé du son, on essaye d'acquérir des expériences. Et on va pas forcément de radio en radio, mais on essaye d'acquérir des expériences qui nous amènent plus loin. Voilà, un petit peu comme un artiste qui change de maison disque.
Quand vous dites que c'est votre vie était comme un roman, je suppose que c'était votre rêve et votre désir, ce parcours-là.
Oui, j'en avais plusieurs rêves, en fait. D'abord, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'artistes, que ce soit parce que je suis né en France, mais j'ai vécu 20 ans à La Réunion. Donc j'ai eu la chance de... Mes parents étaient militaires, mon père. Donc j'ai eu la chance de me promener de La Réunion, avec même en étant un métropolitain, avec cette petite pointe de musique créole, quoi, voilà. Et c'était bien. Et donc, ce qui m'a amené à Madagascar, après à La Réunion, après de nouveau la métropole, et puis dans les studios où j'ai accompagné, comme ça, beaucoup de techniciens, beaucoup de gens, beaucoup d'artistes connus, qui sont encore maintenant là. Il y a 10 ans, comme beaucoup de gens à l'époque, les premiers ordinateurs, les projecteurs, ça n'a pas été bénéfique pour mes yeux.
Oui.
Donc j'ai eu un premier flash, j'ai été voir un ophtalmo qui m'a dit « Bon, on va vous mettre des lunettes, c'est peut-être un petit peu de fatigue, de la myopie. »
Oui.
À ce moment-là, personne ne connaissait rien, il n'y avait pas les techniques laser qu'il y a maintenant. Donc je me suis retrouvé avec des lunettes, ce qui n'est pas pratique lorsqu'on a un casque sur les oreilles, c'est vraiment très compliqué.
Oui.
Et donc jusqu'à il y a 8 ans, où là ça s'est aggravé, où un matin je me suis réveillé, c'était tout blanc sur mes yeux. J'ai dit, là, il y a quelque chose qui ne va pas.
Vous avez dû être paniqué à ce moment-là.
Je suis allé voir l'ophtalmo qui m'a dit, c'est peut-être une cataracte, en fait, c'est pas grand-chose.
Oui.
Bon, d'accord. Moi, j'étais sur Paris à ce moment-là. Donc, je suis allé dans un grand centre qui est connu, plus performant que les 15 ans, c'était le centre Arthur Verne, rue d'Assas.
Oui.
Donc là, on m'a opéré de la simple cataracte. Donc, un pansement à gauche, un pansement à droite. Et quand je suis sorti de là, je ne voyais toujours rien.
Oui.
C'était même pire. c'était horrible. Dès que la lumière, mes yeux pleuraient tout le temps.
Vous aviez mal, en
là,
plus.
Là, bon, au fond de l'œil, examen plus approfondi, en fait, c'est mes yeux qui sont brûlés, c'est le cristallin, quoi.
À cause des écrans ?
Oui, tout à fait.
À cause des écrans.
Les projecteurs. Donc, le laps de temps qui s'est écoulé ne m'a pas permis de faire reconnaître cette maladie comme professionnelle.
Oui.
Le studio a fermé. Donc, rien ne s'est arrangé, en fait. Donc, il n'y avait plus de responsable. Et donc, voilà. Donc, à 2 ans de la retraite, je me suis retrouvé handicapé, avec des procès partout. Et donc, avec une perte.
Quand vous dites partout, c'est du fait des erreurs de diagnostic, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Voilà, les deux erreurs successives dont vous avez parlé.
Tout à fait. Donc, 87% de vue en moins. On n'est jamais préparé. Je crois que personne, comme disait l'autre soir, je pense Max.
Oui, c'est ça, Max.
Personne qui passait après. Même si on a la pêche, on n'est pas préparé à la maladie. Face à la maladie, en fait, c'est pas une maladie, c'est ce que je disais à Sarah.
C'est un accident.
C'est un handicap qui me perturbe beaucoup, jour et nuit. Je ne pense qu'à ça. Les débuts, je me lève en pleine nuit, paf, je me paye un truc parce que je le vois pas.
Parce que votre corps a gardé la mémoire du moment où vous étiez en pleine possession de vos moyens visuels, c'est ça, la mémoire de votre corps, enfin, il est dans le mouvement comme s'il voyait.
Voilà. Ouais. Et comme disait la personne qui est passée après Max, alors là, il s'est passé un événement sur moi. Là, je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est pour ça. J'ai appelé hier soir, mais c'était trop tard. C'était très occupé. Alors moi, étant clavier, pianiste, j'ai eu quelque chose qui s'est passé, mais alors un flash incroyable. J'ai eu un l'ouïe qui s'est développé.
Oui.
Alors j'entendais dans le studio des choses, des gens qui chuchotaient derrière une cloison. J'entendais.
Et c'est arrivé, comme vous dites, il y avait un avant, un après dans vos perceptions.
Ah oui, tout à fait.
C'était pas
le doigté, l'odorat, le goût. Alors là, c'est un truc de fou. Tout le monde se moquait de moi. Il me disait, mais dis donc, tu es trop resté à La Réunion, toi. Tu es un marabout. Je disais non. Je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, ou je sens qu'il y a un son qui ne va pas. Et puis je m'amusais beaucoup. Quand on maîtrise bien la musique, la mélodie. Bon, j'ai fait quand même une étude de musicologie, donc je connais très très bien les sons, tout ce qui concerne le travail en studio, où on ne parle jamais de nous d'ailleurs. Quand on a un enregistrement parfait, on nous félicite, mais nous, on n'est jamais sur les CD. Quand quelque chose ne va pas, on se fait bien en guirlandais. Mmh. Voilà, c'est toujours comme ça. Ça a toujours été comme ça. Donc, donc on m'a le temps d'attendre il y a 8 ans. Donc, j'ai 68 ans, donc j'avais 62 ans. Et j'ai pas eu le temps de toucher de la NDPH.
Oui.
Donc, la CAF, très gentiment, m'a bifurqué directement dans une retraite anticipée.
Oui.
Ou malheureusement.
Donc, comme si vous étiez dans un régime salaire. Classique, au fond.
J'avais un salaire de cadre, c'est ce qui m'a sauvé.
Oui.
J'ai perdu 10 ans de retraite. Donc, 10 ans de retraite, si j'avais été au SMIC ou un petit peu plus, j'aurais
été
au minimum, c'est-à-dire 8 500 euros par an. Qu'est-ce qu'on peut faire avec
bien
ça
sûr,
c'est même pas 790 euros par mois.
Oui.
C'est pas possible. Bon, j'ai un petit peu plus, parce que ce qui m'a compensé, c'est la retraite des cadres. Bon, voilà, c'est ça qui m'a... Mais attention, c'est pas un... Je ne vis pas sur l'or non plus.
Oui.
Donc, pendant ces années, et puis, chose que beaucoup de gens ne savent pas quand on est handicapé, il faut faire très attention, il faut demander à la CAF. Parce qu'entre le moment où vous faites, vous touchez, ou vous touchez pas, vous êtes inscrit à la CAF, qu'elle vous dit, on va vous mettre à la retraite. Il s'écoule minimum 6 mois. Sans aucune entrée d'argent.
Oui, c'est période de latence.
Voilà. Oui. Évidemment, j'ai récupéré les 6 mois. J'ai pas eu un centime. Et donc, moi, j'étais séparé en plus. Donc, à la charge, avec une charge de mes 2 petits-enfants.
Oui.
Parce que ma petite fille a eu un accident très grave de voiture. Elle a perdu, mon gendre est décédé, malheureusement. Donc, c'était en Australie en plus. Donc, je me suis retrouvé avec, maintenant, là, ils sont à la maison. Une petite fille de 23 ans, parce que j'ai eu mes enfants très jeunes. Et un fils qui a 21 ans. Voilà, donc ça n'a pas été facile tous les jours.
Oui.
Donc de mon côté, il y avait mon état de santé, mon accident. Et puis de l'autre côté, ben, ces enfants-là qui ont, comme tout le monde, comme tous les étudiants, arrêté de travailler pendant un an et demi. Et donc, il fallait vivre quatre personnes, puisque oui. ma compagne était professeure. Donc, ça faisait quatre personnes dans la maison.
Avec donc là, vous aviez partout. Tout en même temps, Julien. Vous aviez des problèmes matériels, des problèmes financiers,
oui.
et puis cette épreuve morale que vous oui. subissez. Parce
et,
que...
Ben, il y a eu un état d'espèce de miracle qui est arrivé, parce qu'en appel, j'ai gagné. C'est-à-dire, c'est un fonds de solidarité qui m'a
oui.
donné de l'argent.
Oui.
En fait. Donc j'ai dit, ben, j'ai vécu jusque-là, qu'est-ce que je sais faire? Bon, c'est pas parce que on est malvoyant qu'on est handicapé. Enfin, moi, je me sens pas handicapé personnellement.
Donc là, vous
en
avez fait, pu cesser de simplement
ben,
survivre
état.
Et vous poser la question de la suite, de rebondir
ben, écoutez,
vraiment.
Je m'en pose la question tous les jours quand je sors. Là, c'est ce que je disais à Sarah tout à l'heure. Ce matin, je suis sorti pour aller dans le supermarché. Oh là, quand j'ai vu qu'il pleuvait, qu'est-ce que je suis content. Parce que sinon, c'est un effet blanc.
Mmh, mmh.
Je vois blanc
oui.
devant moi. Donc s'il y a du soleil, je ne peux pas sortir.
Mmh.
Je ne peux pas. Je ne peux pas supporter les lunettes de soleil puisque je ne vois rien
oui.
à ce moment-là. Parce que j'ai que 13% de vue.
Mmh.
Voilà. Donc j'étais content. Je suis sorti, j'ai profité un petit peu. Voilà, je suis sorti. Mais tout de suite, tout me remet à la réalité. Les voitures électriques, les vélos électriques, même si j'entends bien, je les vois, il est trop tard.
Et vous arrivez à faire usage des autres sens qui se sont développés? Parce que vous disiez que là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé.
Quand même, par exemple, les voitures, je les entends.
Oui.
Parce qu'il y a des voitures électriques qui ont une espèce de sifflement.
Oui. Oui.
Parce que c'est pas la voiture, c'est le roulage, c'est la bande, le roulage qui fait qu'on entend les voitures. Mais il y a des voitures, on ne les entend pas, comme les trottinettes. Alors là, quelle horreur.
Et Julien, de cette période-là, donc quand vous avez eu à nouveau des moyens entre les mains, est-ce que vous avez recréé des choses dans votre vie
oui,
que...
justement. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Mais bon, c'est pas grave, on va pas... Je vais pas passer du temps là-dessus à l'antenne pour parler de ça, mais en gros, bon, j'avais cet argent, qu'est-ce que je sais faire à 62 ans? Ben, je dis, mais moi, je ne sais faire que la musique.
Oui.
Et les premières tables de mixage numérique arrivées, tout ce qui est vocal, donc j'ai dit, mais je suis sauvé. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh ben, patatrac, sur les 30... Bon, j'allais dire la somme, sur ce que j'ai touché... les deux tiers, je les ai utilisés pour acheter du matériel.
Et donc vous êtes devenu entrepreneur, c'était votre projet.
Voilà, j'ai créé un studio, parce que comme je suis aussi auteur-compositeur, j'avais mes titres, parce que moi je ne fais que des arrangements et je n'utilise que mes titres en fait.
Mmh.
Donc je me suis mis en entrepreneur parce que en association, c'était très compliqué au niveau des droits. C'était pas possible. Vous savez, on achète du matériel, quand on a une association, la TVA, on la perd. Donc j'ai dit, ben, moi je ne peux pas perdre de l'argent. Donc c'était en mars 2019.
Oui.
Et personne ne savait qu'à la fin de l'année, on allait avoir cette Covid qui nous tombe dessus.
Oui.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, dès que j'ai été en difficulté, personne ne vient. Je n'ai pas de répétition, j'ai personne. Donc j'ai essayé de faire une demande d'aide. Et on m'a dit, mais vous n'avez pas de bilan. Vous venez de démarrer votre société. Mais moi, j'avais pris un apprenti, quelqu'un qui était un petit peu handicapé, mais qui n'est pas des yeux, parce qu'il me faut quand même des yeux pour travailler des mixages, je ne peux pas le faire.
Et jusque-là, Julien, jusqu'au Covid, vous étiez satisfait de la création de votre entreprise?
Ah,
ça se passait
oui,
bien,
évidemment.
Vous étiez heureux?
J'avais 5-6 jeunes
oui.
qui venaient. Bon, moi, je ne les fais pas payer parce que j'ai dit, ça coûte très cher les heures de studio, moi, je n'ai pas besoin de ça pour vivre. Voilà, c'est légal, je leur donne leur chance. Donc j'avais 4 garçons, 4 filles.
Donc finalement, après votre handicap, là vous aviez rebondi, c'est-à-dire vous aviez créé votre solution, quelque chose qui n'était pas un pis-aller, qui était au centre de vos goûts. Donc jusque-là, on peut dire que, pour employer un terme dont on a beaucoup parlé hier, il s'agissait de résilience, c'est que vous vous étiez adapté à votre handicap, bien sûr avec des pertes et des nécessités de changer des choses, mais vous étiez revenu dans le sillon de votre vie, de votre passion d'origine.
Même avec des choses que je découvrais, que je ne percevais pas avant. Parce qu'avec le recul, quand on travaille pour soi, on voit les choses autrement, on voit son entreprise. Vous savez, quand
c'est une nouvelle expérience que vous faisiez.
Dans un restaurant, et quand vous êtes patron, vous ne voyez pas les choses de la même façon.
Bien sûr, c'est une expérience complètement différente.
Exactement.
Donc si moi, je vous comprends bien, Julien, c'est
ce petit stagiaire, parce que, vous savez, on fait glisser maintenant les sons d'un écran à l'autre, hein, sur des logiciels. C'est plus comme avant, on ne fait plus des premières prises, etc. Donc ça, moi, je n'arrive pas à le voir. Mais au niveau de l'écoute, si la personne chante faux, si elle fait trop de vibes, si il y a trop d'écho, s'il y a plein de choses, si elle n'est pas dans la bonne tonalité, oh là, j'ai dit stop.
Oui.
C'est pas bon.
Donc là-dessus, par rapport à ça, Julien, aujourd'hui, vous étiez dans une certaine réussite entrepreneuriale. Donc finalement, à partir de 2019, ce dont vous témoignez, c'est ce qu'ont rencontré des personnes, c'est qu'avec cette chose que personne n'a pu prévoir, qui est cette pandémie, ce sont des vies qui ont eu les ailes coupées. C'est-à-dire des personnes qui étaient dans des trajectoires personnelles, atypiques, indépendantes, artistiques. Enfin, c'est aussi un témoignage sur ce qu'on vit là, en temps de Covid. Vous faites partie de ces trajectoires. Quand je dis atypiques, c'est évidemment pas péjoratif, c'est que vous aviez fait votre métier sur mesure, vous aviez monté votre prototype d'entreprise et vous avez fait partie de ceux qui étaient dans des cas particuliers pour qui ne valait pas la règle générale puisque vous n'aviez pas encore de bilan et qui avaient été frappés de plein fouet par ce côté tout à fait imprévisible du Covid. Je crois que c'est ça aujourd'hui qui vous...
C'était un plus pour moi parce que je pensais, je m'étais renseigné avant, je pense que j'étais le seul studio unique à le faire. C'est que je donnais la chance à tous les malvoyants et tous les non-voyants qui aiment chanter.
Oui, donc là, vous aviez une solution intégrée, voilà, pour à la fois retrouver votre passion et faire de votre expérience du handicap une création et une aide. Donc là, vous y avez beaucoup de choses dans votre solution. Elle avait du sens
même
pour
les
vous.
Jeunes qui avaient des droits et qui ne connaissaient pas, même les parents, parce qu'il y avait deux jeunes filles qui étaient mineures, elles ne connaissaient pas leurs droits. Elles ne savaient rien du tout. Elles ne savaient rien. Et je les ai aidés, je les ai remis sur place, j'ai aidé les parents. Ils venaient de province, je leur ai trouvé des auberges jeunesse. Et bon, comme il y avait déjà ma petite fille, mon petit-fils, certains sont restés des week-ends ici, et bah dormir. Il n'y a pas de souci, il y a beaucoup de chambres.
Et aujourd'hui, Julien, vous en êtes où ?
T'es enseignante. Donc, c'est un grand appartement, il n'y a pas de souci, je suis en rez-de-chaussée. Accessible pour les handicapés, tout point de vue, près d'un RER, près d'un train, près de l'autoroute, d'une nationale, franchement, entre Anthony et Massy. On ne peut pas faire mieux. On ne peut pas. Et donc, je les ai aidés, tant que j'ai pu, et quand la pandémie est arrivée, tout s'est arrêté net, parce qu'ils n'avaient plus le droit de venir ici, personne n'était encore vacciné. C'était très compliqué. Moi, je suis pas médecin pour savoir s'ils sont positifs, négatifs, si c'est bon, pas bon. Ils peuvent mentir. Moi, je peux pas prendre de risques. Moi, j'ai des enfants qui étaient là, des petits enfants qui sont pas vaccinés encore.
Et donc, aujourd'hui, Julien, par rapport à ce donc après un an et demi, où en êtes-vous aujourd'hui? Comment ça se passe pour vous?
J'ai commencé à sortir la tête de l'eau, et ce que j'ai entendu hier soir par M. Macron m'a complètement lessivé.
Qu'est-ce que vous craignez au juste? Est-ce que c'est la quatrième vague?
Ah,
est-ce
oui,
que c'est
tout
la...
Fait.
Comment...
Oui, tout vous savez, j'ai vécu assez longtemps dans les pays où il y a malheureusement pas seulement la famine, hein, des maladies, etc. Et puis je perçois quelque chose. J'ai un sentiment que je ne me trompe pas. Je ne vais pas être trop... Bon, il ne faut pas alarmer les gens, les auditeurs non plus. Mais je crois que ce coup-ci, c'est... Cette quatrième vague va être une espèce, vous savez, comme un tsunami qui... Quand la quatrième vague arrive, elle finit tout enlevée, quoi.
Et vous, quelle perspective avez-vous de votre côté? Parce que, vous avez rebondi après le handicap pour inventer une solution.
Je pensais au retour.
Et là, qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire?
Là, je pensais au retour, donc... j'ai fini d'écumer les tiroirs et puis j'ai acheté des écrans spéciaux pour ce qu'on appelle inverser les couleurs. Donc moi, il faut que mes écrans soient noirs et que les écritures soient en vert. Si c'est pas comme ça, je ne vois pas les écrans. Donc tout est tactile, vocal. Et donc, à part faire des prises de son, je ne peux pas mixer. C'est pas possible parce que les logiciels que j'ai n'ont pas ce contraste.
Est-ce que vous voulez dire que pour essayer de voir l'avenir, vous vous tournez vers des innovations technologiques et vous essayez de faire évoluer votre studio et de le faire muter en termes de technologie?
Oui, parce que quand je vois le matériel devant moi le matin, quand j'arrive ici, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer parce que l'année prochaine, ce matériel, il est obsolète. Demandez à votre technicien, vous verrez. Tous les 4-5 ans, il y a un nouveau matériel qui arrive, une nouvelle norme, MP3, MP4, tout. Mais c'est
Et au-delà des contraintes que ça vous inflige, est-ce que vous avez plaisir à apprendre ce qu'il en est de cette évolution technologique et...
Mais j'ai toujours cette peur derrière moi de dire, patatrac, qu'est-ce qui va encore m'arriver?
Oui.
Parce que c'est pas fini, mes histoires l'histoire des yeux, c'est pas fini encore. Alors, bon, maintenant que je suis seul, c'est ce que je disais aussi à Sarah, tout est compliqué, faire des courses, sortir. Vous voyez un petit peu les difficultés que le commun des mortels a avec 7-8 services qui sont uniquement tout dématérialisés. On va tout sur Internet maintenant.
Oui.
Alors imaginez une personne qui a un handicap, que ce soit au niveau des mains, surtout pour taper des claviers, ou les yeux, pour aller à l'assurance maladie, sur les caisses de retraite, les assurances, les mutuelles.
Ce que vous dites, Julien, c'est que dans un moment où il faut s'adapter, dans un moment où la pandémie nous invite à nous adapter parce que nous avons des problèmes inédits auxquels il faut trouver des solutions inédites, votre handicap vous paraît problématique parce que c'est un obstacle à une adaptation que d'autres personnes qui ont passé cet handicap-là font plus ou moins bien selon les personnes, mais vous sentez que c'est un obstacle à l'adaptation.
Oui, puis j'énerve tout le monde là actuellement, y compris les enfants.
Qu'est-ce que vous entendez par énerver?
Parce que chaque instant... tiens, tu peux me dire où est-ce qu'on appuie pour faire ça? Bon, j'ai une mise à jour à faire. Je vois en bas de l'écran, il y a marqué mise à jour. J'y arrive pas. Donc je les dérange. Et en plus, j'ai une petite fille qui est étudiante, qui va faire une étude de lettres. Et puis j'ai mon petit-fils, lui. Alors là, par contre, il fait des études informatiques. Mais il fait du mannequinat à côté.
Donc eux, ce que vous dites, c'est que eux ont leur solution. Enfin, ils ont leur âge, leur jeunesse, leur pleine faculté. En fait, Julien, la question, c'est comment vous allez pouvoir rebondir après effectivement cette quatrième vague qui est difficile à prévoir. Personne n'a vu le film de cette pandémie. Donc, au fond, vous, Julien, le seul point d'appui que vous puissiez avoir pour soutenir votre morale, c'est de vous dire que vous avez déjà su réussir une mutation par deux fois. La première, ça a été de réussir à vous adapter au handicap et d'une certaine manière à reconfigurer votre vie quotidienne. Comme vous le disiez, vous avez dû vous adapter au temps qu'il faisait, à la météo, aux sensations. Vous avez réussi une première mutation, ensuite une deuxième avec une expérience entrepreneuriale. Au fond, le véritable point d'appui que vous ayez dans votre histoire, puisqu'effectivement c'est compliqué que les personnes valides vous comprennent tout à fait, c'est compliqué que des solutions universelles s'appliquent à vous, c'est dans votre capacité de mutation que se trouve un espoir. Vous avez réussi deux fois, on peut supposer que même si ça vous paraît difficile, même si vous avez peur, ce qui est légitime, comme face à l'inconnu, vous retrouverez probablement ces ressources-là pour inventer une troisième mutation, si on peut le dire comme ça.
Oui, et puis le problème, c'est que j'ai eu aussi une gifle de ma vie, parce que moi, je suis bête et discipliné. On me dit, allez voir tel service, j'y vais. Et donc, je suis allé voir une instance sociale pour dire, voilà, comme solution. Alors, vous êtes assise, je suppose, mais là, franchement, elle a trouvé une solution radicale. Ah ben, c'est pas grave, monsieur. On va vous mettre dans une maison où il n'y a que des handicapés comme vous.
Oui, là, ça n'a pas de sens. Ça n'a absolument... C'est absurde. Au fond, votre témoignage, Julien, illustre le fait que dans certains cas, quand nous avons, comme vous, un parcours atypique du fait du handicap, du fait de votre métier, qui est quelque chose de très pointu, il y a des moments où il n'y a pas de solution publique universelle adaptée à votre cas, enfin le temps qu'elle soit éventuellement mise en place, et il y a des moments où on ne peut compter que sur ses propres forces.
Bien sûr.
Et ça, c'est ce que vous avez fait par deux fois. Et au fond, ce que vous dites, c'est que ce que vous aurez à faire à nouveau, c'est que là, il y aura un moment où vous aurez à compter sur vos propres forces. Ça ne sera pas l'assistante sociale qui va trouver la solution, c'est pas la jeune génération, c'est vous qui allez pouvoir essayer de, à nouveau, quand on parle de mutation, c'est notre capacité à nous transformer, réussir une nouvelle version de Julien, de version quatrième vague.
Voilà, et puis tout ce que j'ai réussi à faire, étant donné que j'ai des oreilles, des ouïes un peu particuliers, j'ai travaillé pour un blog, je dirais pas le nom, un blog oui. Où j'étais modérateur en fait. Donc je chassais un petit peu les pirates musicaux.
Ah oui, là aussi c'est là aussi une solution atypique. C'est seul vous pouviez trouver cette idée-là. Personne ne peut trouver pour vous des solutions aussi aussi haute couture, j'allais dire.
Du réunionnais de Palmas, donc avec une introduction très particulière. Et un an après, la Starac démarre, et après la Starac, Jennifer sort au soleil. Mmh. Et qu'est-ce que je découvre ? Eh bien, que la mélodie de l'intro est exactement la même.
Ah, alors ça... Oui, ça arrive dans les histoires artistiques, que des choses semblent être dans l'air et qu'elles sortent à deux endroits au même moment, ou qu'elles sortent d'un côté, quelqu'un d'autre l'est en tête, c'est vrai que ça arrive.
Si votre technicien, il a le truc. C'est, en fait, je croyais même que c'était Jennifer qui avait fait un nouveau remix. À tel point, parce que j'ai pas entendu, lorsqu'on a fait l'annonce du disque, j'avais pas fait attention en fait. Mmh. Et j'écoute ça, j'ai dit, tiens, Jennifer a fait un truc super sympa. Puis j'entends De Palmas qui chante. Oula, j'ai dit, il y a un problème là. Donc j'étais sur YouTube, j'ai superposé les deux vidéos et j'ai écouté. Oula, j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas.
Là, je regarde en même temps que je vous écoute des témoignages, Julien. Il y a des SMS qui disent, vous avez un cœur de lion, mais vous avez des murs qui se dressent devant vous. Bon courage.
Ah oui,
bise, merci Stéphane.
Beaucoup.
Donc là, vous voyez, c'est Cœur de Lion, c'est aussi une autre forme de romance qu'on vous adresse comme message. C'est assez romanesque.
Là, en ce moment, j'ai quand même un projet, mais un projet personnel pour moi. On verra après, parce que j'ai eu la chance d'écouter Eric Jean-Jean il y a quelques semaines, qui recevait Ophélie Winter, et j'ai fait une proposition. Maintenant, on verra bien. C'est vrai qu'après sa biographie, ça fait longtemps qu'elle ne chante pas, et on verra. Moi, vous savez, je suis comme ça. J'essaye de voir des artistes qui pourraient, pourquoi pas, revenir sur scène, ou des artistes qu'on a un petit peu oubliés, puis il y en a qui veulent pas revenir, il y en a qui ont tiré un trait sur la musique, comme Laurie et tout ça. Et puis, il y en a, pourquoi pas, voilà. Donc là, en ce moment, je prépare un album de 12 titres, uniquement avec des remixes.
Là aussi, on voit que la dimension d'aide, elle est présente dans vos solutions. Vous avez voulu aider des non-voyants quand vous avez inventé votre propre studio de musique. Et là aussi, il y a une dimension d'aide dans la solution que vous envisagez. Julien, on ne peut que vous souhaiter une excellente continuation,
merci,
une excellente réinvention, en vous appuyant vraiment sur ces ressources que vous avez.
C'est ce que je disais à Sarah. C'est vrai qu'en ce moment, quand on écoute, quelles que soient les radios, je trouve que dans le panel musical, à part Gilbert Montagnier, à part connaissance, je ne connais pas ni aucune jeune fille malvoyante ou voyante qui chante.
Oui. Oui.
Alors c'est vrai que c'est une grosse difficulté technique parce que une personne qui vient dans un studio, il faut qu'elle soit accompagnée. Quand elle va enregistrer, il faut qu'elle soit accompagnée à tout point de vue. Donc c'est vrai que c'est une logistique lourde, des frais énormes. Mais rien n'est, comme on disait
rien
tout à l'heure,
impossible.
Monter toutes les opérations, il faut surmonter les difficultés, et puis quand on veut, on peut.
En tout cas, Julien, à nouveau, on vous souhaite vraiment de réussir dans cette nouvelle création et même recréation. Et n'hésitez pas à nous donner des nouvelles parce que, évidemment, toute solution est inspirante pour ceux qui nous écoutent et ça porte d'espoir.
Voilà, si quelqu'un veut mon téléphone, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, elle peut le donner.
Pour tous ceux qui souhaitent témoigner, 09 69 39 10 11. Merci beaucoup, Julien.
Jusqu'à minuit, parlons-nous. Sabine Calégari sur RTL.
22h38, bienvenue si vous nous rejoignez maintenant sur RTL. C'est Parlons-nous, votre espace pour parler de vous, chercher à mieux vous comprendre vous-même, à trouver des solutions ou à aider d'autres personnes par l'expérience que vous avez vécue. Et nous venons d'écouter Julien qui nous a parlé de cette quatrième vague de Covid qui le rend anxieux. Et pourtant, Julien a déjà eu l'expérience d'avoir eu à s'adapter. Plusieurs mutations dans sa vie, il a eu à s'adapter à handicap puisqu'il a perdu la vue. Et il a eu à s'adapter de manière entrepreneuriale en réinventant son entreprise. Et maintenant, il s'apprête à s'adapter encore en fonction de ce qui va se présenter. Pour témoigner, pour nous faire part de votre expérience, ce qu'inspire aussi ce que vous entendez, 09 69 39 10 11. Et maintenant, nous écoutons Aurélie. Bonsoir Aurélie.
Oui, bonsoir.
Alors Aurélie, de quoi souhaitez-vous nous parler? Que souhaitez-vous partager?
En fait, je voulais parler de ma situation parce que j'aime pas du tout en fait la ville déjà où j'habite. Ça fait 7 ans en fait maintenant que je suis dans cette ville.
Oui. Vous ne l'avez pas choisie cette ville?
Non, pas trop. J'ai suivi en fait. Mon fils qui voulait se rapprocher de son père, en fait.
Oui.
Et donc, on est venu avec ma fille, en fait. Mais du coup, en fait, moi, je ne me plais pas du tout, en fait, dans cette ville.
Oui.
J'ai fait aussi 3 dépressions, en fait.
3 dépressions depuis ces 7 dernières années?
Enfin,
depuis que vous habitez là?
3 hospitalisations suite à des dépressions.
Oui.
J'arrive pas du tout à m'intégrer en fait dans cette ville. Enfin, j'ai pas du tout d'amis.
Vous faites un lien direct entre ces dépressions et la ville, ou est-ce qu'il y a autre chose?
Non, en fait, il y a aussi le fait que voilà, je fais aussi des choix professionnels qui sont pas très cohérents. Je sais pas trop en fait. J'ai pas trop d'avenir en fait. Hein. Et c'est vrai que. C'est vrai que je trouve que c'est difficile d'avancer. Mes enfants, ils essayent de me dire de me bouger, mais c'est vrai que. Je sais pas trop comment m'orienter en fait. Hein. J'aimerais bien partir. Hein.
Oui. Et c'est possible? Vous avez des perspectives pour quitter cette ville?
Je saurais pas trop où aller en fait.
Et là, professionnellement, donc votre profession dépend de cette ville-là?
J'ai plus de projet professionnel pour l'instant dans cette ville. Hein.
Oui. Ouais, non. Donc c'est pas le travail qui vous rattache là?
Non, en fait, c'est juste ma fille. Elle, par contre, elle a un travail ici, en fait.
Oui. Votre fille, donc, travaille... Vous vivez toujours avec elle?
Oui.
Oui. Et votre fils, donc, lui, qui a souhaité que vous veniez là pour se rapprocher de son père, comment...
Non, lui, il voulait pas du tout que je vienne, en fait. Non. C'est moi qui suis venue, en fait, avec ma fille, pour qu'on soit proches.
Donc, au fond, avant que vous ne preniez cette décision, il y avait une famille qui était séparée et éclatée, c'est bien ça?
Oui.
Peut-être vous avez vécu une séparation difficile, peut-être que c'est pour quelque chose aussi dans les épisodes dépressifs dont vous parlez.
Oui, en fait, j'avais été licenciée, j'étais tombée en dépression, et après on s'est séparés.
Oui, ça c'était quand? Quand est-ce que vous avez été licenciée? Il y a combien d'années?
Donc je suis venue dans cette ville, là ça fait 7 ans. Avant dans l'autre ville en fait, j'avais été licenciée 7 ans avant, c'est un.
Oui, donc vous
en
dire...
fait, ça fait 14 ans en fait.
Donc
que
ça fait 14 ans que vous vous sentez pas bien.
Oui, voilà, que je subis en fait. Hein.
Oui,
ouais.
Et il y a 14 ans vous étiez encore en couple avec le père de vos enfants?
Oui, à peu près, oui. Oui. Enfin, ouais. Enfin, ça s'est enchaîné, en fait, j'étais licenciée, après on s'est séparés. Ouais.
Donc il y a eu un enchaînement d'événements malheureux à partir de votre licenciement il y a 14 ans, c'est ça ?
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé autour de ce licenciement ? C'était conflictuel ? C'était une décision économique ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Non, en fait, c'était conflictuel. J'avais été changée de poste et ça ne me convenait pas, en fait. Hein.
Oui.
Et du coup, enfin... Et du coup, en fait, voilà, j'ai été licenciée parce que suite au changement de poste qui ne m'allait pas, en fait. Hein,
ouais. En fait, dans ce nouveau poste, on vous a remis en question dans vos compétences, c'est ça ?
Non, en fait, c'était un poste qui ne me plaisait pas. Hein.
Oui. Et donc, vous avez décidé de vous séparer de l'entreprise, de faire une rupture conventionnelle ou quelque chose comme
non,
ça ?
Non, en fait, je suis tombée en dépression et du coup, après, j'ai eu un licenciement, en fait.
Ah, d'accord. C'était le premier épisode de dépression dans votre vie ?
Oui.
Avant, quand vous remontez dans votre histoire, avant 14 ans, il n'y avait pas eu d'autres moments difficiles comme celui-là ? Vous diriez que
non.
Vous étiez moralement dans un certain bien-être ?
Oui. Bah, après, il y avait des hauts et des bas, mais j'étais pas effondrée, quoi, en fait. Hein.
Et qu'est-ce qui, dans ce licenciement, vous a effondré, comme vous dites ? Qu'est-ce qui vous a touché ? Au point que ça marque manifestement le début d'un vacillement dans votre vie ? Qu'est-ce qui vous a effondré dans cet épisode ?
Peut-être parce que j'avais... j'avais perdu, en fait... c'est pourquoi je m'étais investie, en fait...
Oui.
Parce que j'avais beaucoup, beaucoup travaillé, en fait. Hein. Je m'étais beaucoup investie.
Vous voyez, c'est intéressant ce que vous dites là, Aurélie, parce que vous faites une perte. Parce que quand vous dites que vous avez beaucoup investi, c'est comme si vous aviez constitué une sorte de trésor avec votre travail et que vous aviez tout perdu. Puisque ça ne fonctionne pas qu'au lieu de capitaliser sur votre travail antérieur, comme on peut le faire quand on change de poste, c'est la logique des choses. Au fond, ce changement de poste vous a conduit à perdre ce que vous aviez construit avant. Et ça, on sait en psychanalyse qu'une des causes profondes de la dépression, enfin ce qu'on appelle dépression, c'est une perte et un deuil. Qu'au fond, la dépression, ça n'est pas différent en termes d'épreuve morale d'un deuil. Et là, on repère que vous avez fait une perte, donc ce que vous avez construit professionnellement, qui implique un état de deuil, et que ça correspond au premier épisode dépressif dans votre vie. Est-ce que c'est juste de dire les choses comme ça ?
Oui.
Donc là, vous êtes dans un état de deuil que vous avez du mal à surmonter. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe dans votre couple ? Est-ce que c'est à la suite de cette déstabilisation professionnelle que vous vous êtes séparés ? Ou est-ce qu'il y avait des problèmes avant ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Non, je pense que ça s'est enchaîné. En fait, c'est à la suite.
Est-ce que ça voulait dire que c'est votre état ce premier état dépressif qui a déstabilisé votre couple ?
Oui, et puis c'est peut-être le fait que j'arrivais pas à m'investir dans d'autres choses. Oui, je pense que oui, ça s'est enchaîné en fait. Ouais.
Vous voulez dire qu'au fond, vous étiez justement, comme on l'évoquait, en état de deuil après cette séparation professionnelle, que vous étiez chez vous et que vous n'arriviez pas à remobiliser votre désir, votre intérêt pour autre chose.
Si, en fait, j'ai essayé de me sortir, de faire du sport, de changer, en fait. Et du coup, j'ai peut-être délaissé mon couple, je sais pas, tout ça s'est enchaîné, en fait. Hein, ouais.
Vous voulez dire que vous n'arriviez plus à parler avec votre mari ?
Excusez-moi, j'ai...
Oui. Vous m'entendez toujours ?
Pardon. Oui.
Vous n'arriviez pas à parler avec votre mari de ce qui vous arrivait ? Vous n'avez pas pu prendre appui dans votre relation ?
Non.
Et avant, vous étiez un couple qui parlait ? Avant cette épreuve ?
Avant ça allait, en fait. Ouais.
Et là, vous vous êtes perdu en quelque sorte.
Oui, en fait, je... Oui, en fait, à partir de ce moment-là, tout était déstabilisé, en fait. Ouais.
Vous ne vous reconnaissiez plus, d'une certaine manière, réciproquement, et puis peut-être vous ne vous reconnaissiez plus vous-même. Et comment s'est passée la séparation? C'est vous qui avez quitté votre mari? C'est lui qui vous a quitté? Comment ça s'est passé?
Oui, c'est lui qui est parti, en fait. Hein. Parce qu'il ne supportait plus mon état, en fait. Hein.
Il vous l'a dit comme ça?
Oui.
Et à cette époque-là, Aurélie, vous receviez des soins? Après ce premier épisode dépressif, comment vous avez été soignée et accompagnée?
Oui, j'avais vu juste un médecin, en fait.
Un médecin généraliste, vous voulez dire?
Oui.
Mm-hmm. Et il vous a mis sous antidépresseur?
Oui, j'avais des antidépresseurs.
Et est-ce que ça vous a aidé ou pas ou...
Non, pas trop, non.
Oui, donc ça vous a pas aidé à reprendre pied?
Non.
Vous aviez pensé à ce moment-là à commencer une thérapie?
Non, en fait, j'ai fait une thérapie après, quand mon ex-conjoint est parti, en fait.
Oui.
J'ai commencé une thérapie, en fait. Ouais.
À ce moment-là, est-ce que cette thérapie vous a aidé à comprendre ce qui vous arrivait?
Non, pas trop.
Et ensuite, la séparation a été conflictuelle, parce que quand vous dites que vous vous êtes rapproché de votre fils sans que ce soit convenu avec lui ou sans que ce soit un dialogue familial, il y a une rupture dure entre vous et le père de vos enfants?
Oui, en fait, quand il est parti, oui, ça a été très très difficile.
Et pourquoi c'était si difficile entre vous au point que vous ne puissiez pas discuter ensemble de solutions familiales et que vous ayez été obligé de prendre l'initiative vous-même? Qu'est-ce qui se passait pour que ce soit si dur?
On n'arrivait pas trop à se parler, en fait. J'ai pas trop d'explications, en fait. Hein.
Ah. Mm. Et ensuite, donc lui a déménagé, c'est ça?
Oui.
Mm. Donc il s'est éloigné?
Oui.
Oui. Et en fait, est-ce que je vous ai bien comprise? Vous avez gardé votre fille avec vous et votre fils est parti vivre avec son père?
Non, au tout début, les enfants sont partis. Au tout début, les enfants sont partis 6 mois avec le père.
Pourquoi ils sont partis si longtemps avec lui?
Pardon?
Pourquoi sont-ils partis si longtemps avec lui?
Au tout début, c'était tellement conflictuel que mon ex-conjoint voulait faire une alternance de 6 mois. Et du coup, je ne savais pas trop quoi faire. J'ai laissé partir mes enfants, en fait. Et du coup, ça m'a à nouveau effondré.
Mais oui, après, là, Aurélie, il n'y a pas un juge qui est intervenu. Ça s'est fait simplement entre vous deux, sans que personne ne tempère les choses ou ne cherche à les équilibrer mieux. Il n'y a pas eu de jugement?
Il y a eu un jugement, mais en fait, moi, à ce moment-là, je me suis pas présentée, en fait. Je m'étais pas présentée au jugement, en fait.
Vous vous sentiez mal à ce moment-là?
Oui. Je savais pas quoi faire, en fait.
Vous aviez peur de vous présenter au jugement? Ou vous vous sentiez pas capable de prendre en charge vos enfants? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête à ce moment-là?
Non, en fait, je savais pas. Ce qui était le mieux, en fait, pour les enfants, en fait.
Vous avez cru bien faire en les laissant avec leur père?
Pardon?
Vous avez cru bien faire en les laissant 6 mois avec leur père?
C'est-à-dire que mon fils voulait aller vivre chez son père et je voulais pas séparer les enfants, en fait.
Et ça a duré combien de temps? Au bout des 6 mois, vous avez récupéré vos enfants?
Ils sont partis en décembre et oui, je les ai récupérés après en juin, en fait.
Donc là, le père a tenu parole et vous avez récupéré vos enfants et c'était prévu pour une période de 6 mois?
Oui, mais après, du coup, je les ai gardés continuellement. Enfin, je les ai gardés après jusqu'au 7 ans, en fait, qu'on suivit, quoi, en fait. Hein. Ouais. Et ils allaient chez leur père pendant les vacances. Hein.
Et là, vous vous sentiez mieux, Aurélie?
J'étais très bien quand ils étaient là et très déprimée quand les enfants n'étaient pas là, en fait. Non, c'était très très difficile. Hein.
Donc là aussi, on peut dire que comme on a parlé tout à l'heure de la perte de votre travail qui vous a mise dans un état de deuil, là c'est une autre forme de deuil que vous avez connue dans votre vie quand vous avez eu à vivre 6 mois sans vos enfants.
Oui.
Mm-hmm. Et là aussi, je dis des choses générales. Après, ça peut se décliner différemment selon chacun. Mais à nouveau, quand on est dans un état de deuil, l'affect du deuil, c'est le sentiment d'être déprimé, de dépression, et l'impossibilité de rebondir pour désirer autre chose. Le propre du deuil, c'est d'ailleurs comme ça qu'on le conçoit dans les périodes où on porte le noir de façon symbolique, c'est que nous sommes dans la perte, et notre désir ne peut pas renaître pour autre chose. C'est ça qui fait le noir du deuil. Mmh. Et depuis, c'est un deuxième épisode de dépression, et à ce moment-là, vous avez été suivie, accompagnée dans cette période-là ?
Oui, je voyais une psychologue, en fait. Hein.
Oui.
Je l'ai vue pendant à peu près 3 ans. Enfin, au début, non, j'ai pas été accompagnée, et après, j'ai vu une psychologue pendant 3 ans, à peu près.
Et en dehors de vos enfants, dont je comprends bien que vous avez une fibre maternelle forte, que vous y tenez beaucoup, de quoi était faite votre vie et de quoi est faite votre vie aujourd'hui, en dehors de vos enfants ?
De rien, en fait. Justement, ma vie, elle est inconsistante, en fait. Hein.
Ah. Vous avez ce sentiment de vide ?
Oui.
Et là, aujourd'hui, vous êtes en thérapie, Aurélie ?
Oui. En fait, depuis que je suis venue dans cette nouvelle ville, ça fait 7 ans en fait, que je vois une psychologue. En fait. Oui, je suis en thérapie. Hein. Mais c'est vrai que mon état est toujours... Il y a toujours des hauts et des bas, en fait.
Et est-ce que vous avez ce sentiment, Aurélie, que cette thérapie vous aide à vous connaître vous, c'est-à-dire à connaître ce qu'est votre désir ? Ce qu'on appelle le désir en psychanalyse, c'est l'élan vital qui nous porte, c'est cet élan en nous qui nous propulse vers ce qui nous passionne dans la vie, ce qui a du sens pour nous. C'est ça le désir, et c'est ce qui nous donne un sentiment d'énergie dans la vie, quand nous sommes comme poussés de l'intérieur vers ce qui a du sens pour nous. Hélas, le désir, on ne le connaît pas forcément d'emblée. Parfois, pour savoir qui nous sommes, quel est notre élan fondamental, nous avons besoin d'une exploration et nous avons besoin d'être accompagnés dans cette exploration. Il me semble que pour que vous puissiez sortir de la dépression et retrouver une joie de vivre, il me semble essentiel que vous puissiez mieux vous connaître et savoir de quoi est fait votre élan fondamental, ce qui donne du sens à votre vie. Je pense vraiment que c'est cette recherche-là qui peut vous aider à trouver cette issue que vous cherchez. Est-ce que vous pensez que cet axe-là, il est présent dans la thérapie que vous pratiquez ?
Oui, mais par contre, en fait, la thérapie que je pratique, je la trouve bien, mais c'est en fait... C'est dans cette ville, en fait, je trouve que j'ai pas de raison d'y être, en fait. C'est là où j'habite, en fait.
Est-ce que vous pensez que vous sauriez davantage comment orienter votre vie si vous changiez de ville ? Parfois, on a l'impression qu'un changement géographique est la solution miracle, mais il me semble que il pourrait y avoir une solution pour vous si vous saviez de quoi est fait votre élan profond, vers quoi vous tendez, ce qui peut donner du sens à votre vie, pour pouvoir le construire où que vous soyez. Vous voyez ? Parce que je pense que si vous misez uniquement sur un déménagement pour que tout change dans votre vie, vous risquez d'avoir une certaine déception, parce que si vous vous retrouvez dans une autre ville, mais que vous ne savez toujours pas ce qui vous anime et ce que vous pouvez créer comme solution pour que votre vie à vous ait du sens, je ne suis pas sûre que ce soit l'environnement à lui seul qui puisse vous apporter la solution. Vous voyez ? Donc vraiment, ce que je suis tentée de vous conseiller en vous écoutant, c'est d'approfondir le plus possible votre thérapie, de l'orienter vraiment vers la connaissance de vous, pour réfléchir à, pour le dire au plus simple, à ce pourquoi vous êtes faite, enfin, ou ce qui vous anime, ce qui est la même chose, et que vous puissiez en avoir une idée, parce que tant que vous n'avez pas cette idée, si vous bougez de ville en ville, bon, même si le climat est plus agréable, même si l'environnement vous plaît davantage, mais vous risquez quand même d'être dans une certaine errance.
Oui, mais oui, en fait, j'ai l'impression que ça fait 14 ans que je suis en errance. Hein. Enfin,
oui.
C'est comme si j'accompagne mes enfants, enfin, mais je trouve que voilà, que je suis pas une bonne maman, parce qu'en fait ils doivent voir que je suis une maman qui a pas de projet, quoi, en fait.
Mais je crois, vous savez, Aurélie, que le problème n'est pas que vous soyez pas une bonne maman. D'évidence, vous avez la fibre maternelle. Je crois qu'en fait c'est à vous-même, c'est envers vous-même que vous devez être une bienveillante envers vous-même, c'est-à-dire de trouver ce qui peut donner du sens à votre vie. Et vraiment, je vous recommande d'approfondir ça en thérapie, de chercher cette connaissance de vous, pour que où que vous alliez, vous puissiez avoir des pistes.
D'accord.
Voilà. Merci pour votre témoignage, Aurélie. La dépression, c'est vraiment une souffrance très courante, et je pense que votre témoignage pourrait éclairer d'autres personnes. N'hésitez pas à nous donner des nouvelles au 09 69 39 10 11. Merci. Bon courage à vous, Aurélie.
Merci, au revoir.
22h minuit, parlons-nous. Sabine Calégari sur RTL.
Il est 23h03 sur RTL et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez maintenant. C'est Parlons-nous, votre espace pour tous les sujets qui vous interrogent, vous soucient. Qu'il s'agisse de travail, de couple, d'amour, de famille, de santé. Si vous avez le sentiment de ne pas trouver d'issue dans le problème que vous vous posez, n'hésitez pas à nous appeler au 09 69 39 10 11. Et vous pouvez aussi témoigner par SMS, soutenir un auditeur, 64 900 code RTL, ou sur la page Facebook de l'émission RTL-Parlons-nous.
22h minuit, parlons-nous. Sabine Calégari sur RTL.
Et c'est Parlons-nous, votre espace où vous parlez de vous. Pendant une heure encore, vous pouvez nous appeler au 09 69 39 10 11 pour toutes vos questions de vie, pour tous les sujets qui vous interrogent. Et à présent, nous écoutons Margot. Bonsoir Margot.
Bonsoir et bonsoir aux auditeurs et auditrices. Je suis très contente d'être avec vous.
Eh bien, bienvenue, on est ravis de vous accueillir.
C'est très gentil. Je vais vous raconter pourquoi je vous ai appelée.
Oui.
J'étais très touchée. Je suis une petite fille, tu parles, de 86 ans.
Mon Dieu, mais vous avez une voix tellement jeune.
C'est gentil.
Oui.
J'ai connu la guerre et surtout, malheureusement, d'une famille juive originaire, oui. Les déportations et la séparation totale de mes parents et de ma famille, et aussi, heureusement, un sauvetage merveilleux par des personnes qui ont jugé normal d'aider des gens dans la pire des détresses.
Oui.
Et c'est ce qu'on appelle dans certains cas, quand on les retrouve, les justes parmi les nations. Et donc, je suis venue de ça. Et la guerre s'est terminée. Et quand on me dit, ah ben la guerre est finie, tu peux t'appeler comme avant, etc. Il n'y a pas d'avant. C'est
oui.
Pas vrai.
Oui.
Il y a autre chose. Je ne dis pas qu'il y a un après, ça ne veut rien dire. Il y a à chaque fois. C'est ce que je pense pour aider tout le monde qui a envie d'être aidé. Un moment qui nous appartient. C'est pas ni avant, ni au milieu, ni après. On peut dire ça, c'est facile. Par contre, quand on dit non, il n'y a pas d'après. Il y a qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux apporter à la société. Bon, ça a été ma joie de vie, puisque... Je peux continuer comme ça ?
Oui, je vous écoute, Margot. Oui, je vous écoute. Votre voix est mélodieuse, c'est une chanson.
Oh, bah tant mieux, c'est sympa comme tout. Parce que, en pleine guerre, mais vraiment, alors que j'avais personne, mais mon père est venu me chercher une fois,
oui.
Et j'ai vu une naissance de petits gorées. Hein. Oh, c'était extraordinaire. Ils sortaient les uns après les autres. Elle en avait au moins 7 ou 8.
Mais c'est la force de la vie que vous aviez sous les yeux.
Tout à fait.
Oui.
Et c'est là où j'ai regardé mon père et j'ai demandé, est-ce que c'est pareil avec les femmes? J'avais 9 ans.
Oui.
Et mon père m'a répondu, oui, mais il faut les aider. Vous me croyez ou pas, mais enfin, c'est pas la peine de dire vous me croyez ou pas. J'ai senti monter en moi une sève formidable et j'ai dit, je serai, quand je serai plus grande, quelqu'un qui aiderait les femmes à mettre au monde leurs enfants. Je suis sage-femme.
Quel moment puissant de relation avec votre père. Comment
oui.
était votre relation avec lui avant cet épisode? Parce que je crois que ça ne sort pas nulle part, ce moment d'échange entre vous.
Je ne sais pas quoi dire. Il paraît qu'il y a eu une fois, je devais avoir une double otite. C'est un souvenir dont je me souviens, j'avais 3 ans. Et
vous vous souvenez d'avoir 3 ans, c'est plutôt rare.
Non, mais il y avait 2-3 médecins à la maison et ils ont demandé sur les genoux de qui veux-tu aller? Vous me croyez ou pas? Mais enfin, vous ne pouvez pas me croire.
Je vous crois, Margot.
J'ai attendu un tout petit instant.
Oui.
Parce qu'il fallait percer, il fallait faire une parasynthèse. Et j'ai dit, sur les genoux de papa. Et en même temps, je sentais que ma mère allait souffrir de ce que je venais de dire, aussi petite que j'étais.
Là, c'est vous aviez quel âge exactement?
Même pas 3 ans.
Ouais. Vous avez ce souvenir de façon directe ou vous pensez que vous l'avez reconstitué et qu'on vous l'a raconté?
Non, direct. Personne ne m'a rien raconté.
Oui. Là, vous avez choisi votre père. Alors, si je comprends bien votre sentiment, vous ne vouliez pas choisir votre père au détriment de votre mère, mais c'était quand même une relation élective entre vous et lui. Quelque chose à part.
Je le pense.
Oui.
Je le pense et j'ai senti la peine qu'elle pouvait avoir. Mais j'avais quoi? 3 ans? Même
oui.
pas.
Vous pensez que vous en avez gardé un sentiment de culpabilité ou c'est pas ça pour vous le sens de l'épisode? Est-ce que pour vous c'est simplement le sens de cet élan vers votre père?
Je sais pas. Je pense qu'il y a un moment de culpabilité, mais je pense que ça a existé quand je les ai retrouvés après la guerre. Hein.
Oui.
Ma mère était particulière, mon père aussi bien sûr, mais j'avais un élan direct
oui.
avec mon père, clair et net.
Lui aussi a ressenti ça? Vous en avez parlé plus tard avec lui? Il se souvenait, lui, de son côté
de
l'épisode?
Une situation où il était absolument pareil. Lorsque j'ai voulu faire mes études de sage-femme, j'avais plein de jeunes femmes, certainement de jeunes filles, qui étaient convoquées de cette manière. Je devais aller devant un inspecteur de police.
Oui.
Et j'avais quoi, 18 ou 19 ans, je m'en vais le papa. Et j'ai dit à mon père, je ne comprends pas. Je suis appelée à la police. J'ai un peu peur. Et mon père est venu avec moi.
Oui.
Et c'est à lui que j'ai dit ça. Et c'est lui qui m'a emmenée voir le policier. Il y avait comme une enquête de bonne éducation, si vous voulez, pour faire les études de sage-femme.
Oui.
Et c'est mon père. Mais je peux penser autre chose. C'est vous qui me faites penser ça.
Je vous écoute.
Mon père parlait très très bien le français. On était lorrains. Mais ma mère était d'origine allemande.
Oui.
Et je pense qu'elle n'avait pas les capacités qu'avait mon père. Point barre.
Quand vous dites capacité, vous parlez de quelle capacité? Capacité liée à la langue ou vous pensez à autre chose?
Non, les capacités de rencontrer, par exemple, des gens qui étaient responsables de la loi, comme c'était le cas quand j'ai été convoquée à la gendarmerie.
Ah, donc votre père avait la capacité de protéger sa famille et de vous guider? Et vous pensez
de
que
parler
vous...
normalement et d'avoir savoir à qui il avait affaire. Maman ne le savait pas.
Vous disiez tout à l'heure, vous parliez de quelque chose de particulier ou d'étrange chez votre mère. Est-ce que c'est à ça que vous faisiez référence? Au fait que pour elle, elle avait du mal à sentir l'autre dans le lien?
Je ne voudrais pas parler que de ça, mais je sais que quelques jours avant sa mort...
Oui.
Elle m'a demandé, elle m'a dit, je ne sais pas pourquoi, j'étais si méchante envers toi, pardonne.
Ah.
Voilà. Et moi, j'ai dit, mais maman, c'était la guerre, patati patata. Elle a dit non. Elle a dit, c'était autre chose. Je n'ai jamais su quoi. Mais je ne le cherche pas. Écoutez, j'ai 86 ans, on ne va pas commencer. Je suis contente de pouvoir encore apporter des tas de... J'espère, je ne veux pas dire... des tas d'espoir et d'espérance à de nombreuses personnes pour dire que même dans les moments les plus destructifs, on ne peut pas dire autrement, c'était la guerre dans mon temps.
Oui.
Hein, je veux quand même dire une chose, c'est que ma mère, alors là, elle était plus forte que mon père. Elle est sortie d'une réunion de famille qui s'appelait un conseil de famille. Quand j'étais petite, j'avais 7-8 ans. Quand ils ont dit conseil de famille, je croyais que c'était un conseil des rois. J'apprenais ça à l'école, tu sais, le conseil des rois.
Mmh.
Et elle est venue en disant, eh bien, c'est parfait, tout le monde est d'accord, si les Allemands doivent nous prendre, nous tuons les enfants, nous les suicidons, et nous, après. Eh bien, je vais vous dire, j'étais contente, parce que je savais qu'au moins, je ne souffrirais pas.
Oui, alors... Ce qu'on peut remarquer, Margot, à propos de cet épisode si radical, c'est qu'il s'est produit à peu près en même temps que l'épisode qui, lui, était radicalement du côté de la vie, parce que la naissance des
voilà.
petits porcelets, vous le situez à peu près à la même époque, vous dites vers 7-8 ans. Donc peut-être, là on a deux, j'en tire pas d'interprétation particulière, mais il y a quand même deux épisodes en vis-à-vis. On va dire la loi maternelle au sens de la loi est dure, mais c'est la loi qui dit que plutôt mort que pris par les Allemands, donc ça c'est une loi morale extrêmement dure du côté de la mère qui pouvait aboutir à la mort, et de l'autre côté quelque chose du côté du vivant avec votre père qui vous fait assister à la naissance des porcelets et qui vous donne envie de faire votre métier, d'aider les femmes dans leur accouchement. Donc là, il y a deux systèmes en vis-à-vis. On ne les juge pas quand on dit ça. On dit qu'il y a vraiment... c'est quelque chose quasiment de diamétralement opposé. Une loi très dure qui peut conduire à la mort et un regard sur la vie qui soutient la naissance. C'est frappant, ce contraste.
Je pense ça aussi. Mais l'affaire de si les Allemands doivent nous prendre, on était deux enfants, mon frère aîné et moi-même. C'était juste avant. C'était à 8 ans et à 9 ans, c'était les gorées, les porcelets. Voilà. Mais je pense que vous avez raison. C'est quelque chose... J'ai trouvé que la famille qui s'était réunie avait trouvé une étrange solution, d'autant que aussi petite que j'étais, on m'avait déjà changé mon prénom, on m'avait baptisée catholique, etc. Et
quel
mon
est
nom
votre prénom vous, là, vous, aujourd'hui, votre prénom, c'est Margot.
Ah, c'est le vrai prénom de naissance.
Oui.
Pendant toute la guerre, je me suis appelée Marguerite. J'aime beaucoup m'appeler Marguerite.
Oui.
Il n'y a que ma fille et mon fils qui, quand d'un seul coup, ils disent « Marguerite ». Voilà. Mais c'est Margot. Et quand j'ai découvert, après la guerre, avec des papiers d'identité, des vrais, que j'étais née Margot, M-A-R-G-O-T,
oui.
Et je vais vous dire quelque chose, je suis ravie. Parce que Margot, G-O-T, c'est Gott, c'est Dieu.
Oui.
Hein, ça c'est, et mes parents m'ont dit qu'ils avaient appelé mon frère Paul et moi Margot parce que c'était quelque chose qui était unique, aussi bien ça s'écrivait pareil en allemand, en anglais et
oui.
en français.
Oui.
Margot, j'aime
oui.
bien.
C'est un prénom qu'ont choisi vos deux parents ensemble ?
Ah, ils ont choisi. C'est mon père qui est allé me déclarer
oui,
à la
ça
mairie.
C'était classique. Mais là, ils étaient unis dans le choix de votre prénom.
Oui, j'ai su ça, quoique ma mère avait envie de m'appeler Eliane. Je pense que si elle m'avait appelée Eliane, j'aurais été beaucoup plus calme. Eliane, n'est-ce pas, c'est tellement biblique, etc. Chez Margot.
Vous savez, bon, vous dites que vous avez ce souvenir à partir de 3 ans, vous ne cherchez pas tellement à l'interpréter, mais peut-être, puisque vous êtes dans un message de vie et d'espoir aux personnes, ce qu'on peut imaginer, c'est que c'est une hypothèse, on ne saura jamais, parce qu'il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de preuve tangible pour ça, mais ce qu'on peut imaginer, c'est que vous aviez deux parents manifestement très différents, c'est-à-dire des personnalités différentes, des positions subjectives différentes, d'être des modalités de lien à l'autre très différents. On peut supposer que à 3 ans, si vous êtes allé vers votre père, c'est probablement que vous avez senti qu'il y avait une mouvance commune entre vous et votre père, une sorte, je ne sais pas comment appeler ça, une affinité de personnalité ou une affinité d'âme. Parce qu'on sait que les enfants, ils sont pas beaucoup, même pas du tout, à 3 ans, dans le cérébral, dans la pensée rationnelle. Ils sont vraiment dans le champ des émotions et le champ du cœur. Donc un enfant perçoit extrêmement bien de quoi est faite l'ambiance d'une personnalité, pour l'appeler comme ça, ou la mouvance. Pour ma part, j'ai l'idée que vous avez pu aller vers votre père, non pas pour rejeter votre mère, mais de la même manière que des aimants s'attirent, vous êtes allé vers une polarité ou vers un champ personnel qui était en affinité avec vous. Et je crois que ça vous a probablement donné une énorme force. Vous avez vraiment été appuyé sur un idéal de père. À nouveau, vous y avez trouvé un idéal du côté de la vie. À 9 ans, vous vous êtes à nouveau appuyé sur cet idéal-là pour choisir un métier qui, dans votre cas, est un métier passion. Et aujourd'hui encore, quand vous parlez de surmonter la guerre, vous parlez de renaissance. Donc il y a toute une chaîne comme ça d'énergie que vous avez trouvée en vous appuyant sur un père qui, à vos yeux, était une figure idéale. Ça vous paraît juste de dire ça ?
Oui, d'autant que quand, à l'époque, nos familles, j'étais, si vous voulez, quelqu'un qui n'était pas bien élevé par ma mère, en tout cas. Elle disait, ça ne se fait pas, une fille de bonne famille, entre guillemets, ne fait pas un métier de sage-femme, évidemment. Elle fait plutôt puéricultrice, ou elle fait plutôt, surtout l'idée de ma mère, jardinière d'enfants. Et moi, c'était pas du tout ça. Et mon père disait, après, quand j'ai eu mon diplôme d'État en France, bien sûr, et français, ma fille peut aller dans le monde entier, chez les Noirs, les Jaunes et les Blancs, et toutes les ethnies, elle a un métier universel.
Donc ça, c'est ce que voulait votre père pour vous. C'était le désir de votre père pour vous, que vous soyez une citoyenne du monde. Déjà, il le voulait à travers votre prénom, et là, il le voulait à travers votre métier.
De toute façon, ça s'est fait comme ça. Maman ne savait pas très bien ce que ça signifiait, ce que j'étais, mais ça n'a pas d'importance. Je veux dire que ce qui a de l'importance, c'est ce que j'ai conservé des éducations que j'ai eues au travers des religieuses, des couvents, des gens cachés. Et même après la guerre, ça n'a pas été facile. J'ai été dans une maison d'enfants. Alors là, j'avais 14 ou 15 ans. Mmh. À l'OSE, de l'œuvre de secours aux enfants. Et là, il y avait, j'ai rencontré Elie Wiesel, vous voyez,
qui
a des prix Nobel.
Oui.
Bon, il était tellement triste, et moi, j'étais pas du tout triste. C'était autre chose. Enfin, on était des enfants rescapés, les uns les autres, retrouvant peu à peu des membres de la famille, ou pas du tout. Mais le fait d'avoir ce métier, je me suis sentie guidée toute ma vie. Et j'ai pu faire des choses, enfin, je ne veux pas me vanter, mais enfin, des choses nouvelles pour cette profession que je continue à aimer. Parce que d'abord, même bibliquement, c'est marqué, lorsque le pharaon avait dit « Je ne veux pas que ce peuple des Hébreux, qui était là-bas, fasse des enfants à tire-larigot », les sages-femmes étaient priées de les laisser mourir. Hein. Sur le siège, ça s'appelle. Et les sages-femmes, il y en avait deux. Une qui s'appelle Pouar et une qui s'appelle Chifra, qui n'ont pas obéi. Mais il y avait déjà la milice La milice est allée dénoncer les sages-femmes au pharaon et à sa clique. Et il a dit, il les a appelés, puis il a dit, mais vous n'obéissez pas à mes ordres. Alors elles ont eu cette réaction, car elles s'étaient tout de même concertées. Elles ont dit, oui, mais quand on arrive, les femmes, l'enfant est déjà là. Et là, je vous donne cette indication. Regardez comme c'était étrange. Là, le pharaon ne pouvait rien dire. Pourquoi ? Parce que l'enfant était né. Et si on avait tué l'enfant, oui, c'était un infanticide. Oui. Alors que si on n'avait pas laissé venir, qu'on avait tué in utero, c'était un féticide. Vous vous rendez compte ?
Oui.
C'est beau. Moi, j'adore ça. Alors, je ne vais pas retenir toutes les personnes qui ont envie de vous parler, mais je vais vous dire, quand récemment, c'est pour ça que j'ai appelé des jeunes enfants de cette école catholique chrétienne, dans un collège finalement tout à fait laïque, ont souhaité que quelqu'un vienne raconter un peu une vie qui a duré 4 ou 5 ans, soi-disant, d'enfants, etc. Ils avaient préparé eux-mêmes toute une exposition touchante, je peux pas vous dire. Il y avait un enfant qui était là. Il a dit, ben oui, mon grand-père a été ramassé, l'église, enfin, truc catholique, hein, a été ramassé et déporté, et il avait amené, non, c'était des enfants de 14-15 ans, le souvenir du grand-père, et j'ai vu un joli manteau de fourrure. Grand-père était fourreur, vous vous rendez compte, avec ça, et quelques souvenirs de ces gens qui ne sont jamais revenus, hein. On va pas revenir sur ça. Je voulais surtout dire à chacun, je ne sais pas ce que ça veut dire, je sais ce que ça veut dire, le malheur, la tristesse, et je vous raconte pas ma vie et les gens que j'ai rencontrés qui disaient, elle n'est pas de chez nous. Je sais ce que ça veut dire. Et je veux dire que il ne faut pas perdre de vue ce que j'appelle, moi, la reliance. J'ai été élevée par des religieuses, j'ai été élevée par des gens d'amour comme ça. Ben évidemment, j'étais proche, mes parents ne pouvaient pas m'aider.
Vous faites référence à l'étymologie du terme de religion, religare, relier.
La reliance, oui, et non pas résilience. Excusez-moi, je déteste ce mot. Il est bien, c'est un certain moment, mais pas traîner sa reliance pendant 3, 4, 5, 6 ans parce qu'on ne fait pas d'efforts. Il a fallu faire des efforts énorme pour y arriver, et je sais que n'importe qui peut y arriver, puisque moi j'y suis arrivée. Voilà.
Il me semble, Margot, que ce que illustre votre discours, c'est que dans un monde humain, ce ne sont pas les faits bruts qui décident de notre vie, parce que vous avez connu des faits terribles, vous avez connu la guerre, vous avez connu le deuil, vous avez connu les changements de vie, vous avez connu des différentes menaces, et en fait la manière dont vous voyez les choses, la manière dont vous vous racontez l'histoire, en psychanalyse on appelle ça le mythe individuel, de la légende que vous faites de votre propre vie, va du côté du vivant et de l'espoir. Donc au fond, dans un monde humain, ce n'est pas le fait brut qui décide, mais la manière dont nous concevons les choses et le sens que nous leur donnons. Ce qui signifie que nous avons une marge de manœuvre parfois bien plus importante que nous ne croyons sur notre destin. Nous ne sommes pas uniquement soumis victimes des faits, nous avons entre les mains la possibilité de leur donner un sens, et c'est ce que vous faites.
Je le pense.
Eh bien, merci beaucoup, Margot, pour votre témoignage. Et puis, on ne peut que vous souhaiter une longue, belle vie à l'image de ce qu'elle a été.
Oui, en tout cas, je vous embrasse toutes. Et puis, bon courage et pas peur, même pas peur.
Ce sera très utile pour cette période dans laquelle nous vivons. Merci,
oh oui,
Margot. Belle continuation à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Sabine Calégari sur RTL. Parlons-nous. Jusqu'à minuit, parlons-nous. Sabine Calégari sur RTL.
Il est 23h35 sur RTL. Nous sommes ravis de vous accueillir si vous nous rejoignez maintenant. C'est Parlons-nous, l'émission qui traite de vos questions de vie, de votre sujet du moment, en vous aidant parfois à comprendre comment fonctionne l'esprit humain. Ainsi, nous avons parlé de nos ressources face au handicap, face à la dépression, face aux épreuves de vie comme la guerre. Et nous avons eu un très beau témoignage de Margot. Un témoignage qui a suscité des réactions, de très beaux messages, comme celui de Maurice qui dit « Margot, si vous nous écoutez encore, quelle grande dame, une vraie dame du monde, qui nous donne et nous transmet un héritage unique. Nous lui devons le respect. Merci, madame. » Et à présent, nous écoutons Claude. Bonsoir, Claude.
Oui, bonsoir, madame. Merci de me recevoir sur l'antenne d'RTL.
Avec plaisir.
C'est la première fois que je passe à la radio.
Oui.
Je vous écoute tous les soirs.
Ah, merci pour votre fidélité.
Merci. J'ai écouté, bien sûr, Caroline Dublanche aussi.
Oui, bien, bah,
puis,
oui, bien sûr.
J'ai pas voulu passer à l'antenne. Je me suis dit, à mes occupations, j'avais pas trop le temps d'appeler. J'avais un peu de trac parce que je me suis dit, passer à la radio, c'est comme si on passait à la télévision. Et puis mon appel, c'était de vous dire que j'ai pas eu une enfance facile parce que j'ai grandi dans une famille nombreuse.
Oui. Et vous étiez combien dans la famille?
Nous étions 18.
18?
Oui.
Mais vous voulez dire 16 frères et sœurs et vos parents?
Mais j'ai 5 sœurs et après que des garçons.
Eh bien, en effet, donc ça c'est une famille exceptionnelle. Enfin,
tout très composée, oui.
Oui, oui. Et vous dites que votre enfance n'a pas été heureuse?
Ben, ça n'a pas été facile parce qu'en fait, moi je suis frère jumeau avec mon frère qui s'appelle Pierre.
Oui.
Et à l'âge de 3 ans, on a été placé dans une famille d'accueil. Il nous a adoptés.
Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez placé en famille d'accueil?
Comment?
Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez placé en famille d'accueil?
Ben, c'est-à-dire qu'il y avait des problèmes avec mon père et ma mère. Ils se sont un peu dispersés. Et puis bon, certains, quand ils ont grandi à leur adolescence et après à l'adulte, dès qu'ils étaient à l'âge adulte, qu'ils étaient maturés, puis ils ont décidé de croiser, de faire leur chemin l'un et l'autre.
Donc la famille n'était pas réunie, chacun, c'était une famille assez éclatée, avec certainement des écarts d'âge importants.
Alors, oui, quand même, parce que ben, nous, on était la troisième rangée de la fratrie, de la famille nombreuse, et j'ai pas vraiment vécu tout ça, parce que bon... Nous, notre mère, c'était notre mère d'adoptive, d'adoption de la famille d'accueil. C'était des gens qui étaient agriculteurs et agricultrices. Ils avaient une grande exploitation agricole. Et puis après, bon, moi et mon frère, on s'est séparés.
À quel âge vous vous êtes séparés?
Je devais avoir 19 ans.
Ah oui, donc vous avez passé toute votre enfance entre vos 3 ans et vos 19 ans. Vous avez été 16 ans dans cette famille d'accueil avec Pierre.
Oui.
Oui.
Et
là, quand vous dites que ce n'était pas une enfance heureuse, qu'est-ce qui vous a troublé pendant cette période-là de 16 ans? Qu'est-ce qui était difficile pour vous?
En fait, ce qui était difficile, c'est que... On m'a détecté à mon adolescence une maladie génétique très rare.
Oui.
Et je ne le savais pas.
Avant, vous n'aviez pas de signes avant-coureurs, pas de symptômes?
Ben, j'ai une pathologie.
Oui.
J'ai une pathologie. C'était une dame qui était pédopédiatre qui m'a annoncé la nouvelle que... En passant des examens, se sont aperçus que j'étais atteinte d'une maladie génétique très rare à mon adolescence. Et puis, depuis, je n'ai pas pu exercer mes activités professionnelles parce que c'est que je me suis retrouvé après en situation du handicap.
Oui.
Et j'ai perdu mes moyens, j'ai tout perdu. Et là, je me suis reconstruit depuis, mais...
À cette époque-là, vous aviez commencé des études. De quoi était faite votre vie quand votre maladie s'est déclarée?
Ben, disons, quand la famille d'accueil m'a appris que j'étais atteinte de cette maladie rare,
oui.
Ils m'ont dit, bon, il y a un traitement pour la maladie que j'avais, mais... elle m'avait dit que les chercheurs au CNRS, de laboratoire d'analyse médicale, qui développent de certaines molécules, n'ont pas ont mis un traitement en place, mais la maladie n'est pas éradiquée. C'est-à-dire que
il n'y avait pas de traitement, il n'y avait pas de guérison à ce moment-là.
Oui, voilà.
Oui. Et aujourd'hui, vous souffrez toujours de cette maladie? Quel est votre état de santé aujourd'hui?
Ouais, aujourd'hui, ma foi, ça va un peu mieux. Bon, ma foi, ça va un peu mieux maintenant. Puis, avec la crise sanitaire que nous traversons... Bon, j'ai été vacciné deux fois et puis avant j'allais avant je partais dans la principauté d'Andorre chez des amis qui habitaient là-bas et je passais mes vacances là-bas dans la principauté d'Andorre pour un court séjour d'une semaine à peu près et puis j'ai été rencontré là-bas, on est devenus amis, et voilà. On s'est familiarisé, on a sympathisé, et puis voilà. C'est comme ça qu'on est venus très amis. Voilà. Moi, j'ai pas eu la chance, bien sûr, dans ma vie, je vous parle de mon parcours de vie.
Oui.
J'ai pas eu de chance d'avoir des enfants, comme tous les couples qui ont pu en avoir.
Oui.
Moi, disons que c'est une vie un peu assez chaotique que j'ai eue. Disons que j'avais une liaison avec une personne, mais la personne ne pouvait pas me donner d'enfant parce que elle pouvait pas aussi faire des enfants.
Donc le fait que vous soyez pas père, ça n'a rien à voir avec votre maladie à vous. C'était lié à cette rencontre.
Oui, c'était lié à cette rencontre, oui.
Oui.
Maintenant, moi je suis indépendant aujourd'hui. Je suis originaire du Midi de la France. J'ai l'accent du Midi. Autrement, c'est vrai que je suis dans une ville où le chanteur Pierre Perret vient de cette ville-là. Puis, le souvenir que je garderai, c'est que je devais avoir peut-être, en 76, je devais avoir peut-être 10 ans.
Oui.
Il y avait un film qui devait se tourner à Bruniquel. Il y a un château qui s'appelait le château de Bruniquel. C'était à 10 km de Moricou où se trouvait ma famille adoptive. Et puis elle m'a dit comme ça sur le journal qu'elle a vu qu'il y avait un casting. Et je me suis présenté au casting à Bruniquel. Et puis on m'a sélectionné. On m'a sélectionné et je suis devenu figurant. Je jouais un tout petit rôle dans le film. Bon, c'est un film, je pense que tout le monde peut-être a vu, peut-être. C'est un film des classiques, qui était Le Vieux Fusil avec Philippe Noiret et Romy Schneider. Et puis, c'est un film qui a été tourné pendant 3 semaines.
Oui.
Et puis, ça m'a marqué. Ça a été un grand souvenir pour moi. Voilà, je me trouvais des personnes du cinéma. Du cinéma mondial.
Oui.
Et puis, c'était des grandes personnalités. Et puis. Ça m'a beaucoup marqué. Mais...
Oui, ça c'est un souvenir heureux de votre vie.
Ah oui.
Et aujourd'hui, comment êtes-vous, Claude? Dans quel esprit êtes-vous? Est-ce que vous avez trouvé une forme de tranquillité dans votre vie? Vous êtes serein? Comment vous vous sentez?
Ben, je me sens plus apaisé, relaxé. Je me sens... Il y a des moments où je me sens fragile, ça dépend dans quel... Dans quel contexte je me trouve, mais je suis plutôt détendu, plutôt apaisé.
Est-ce que vous pensez...
un tempérament d'ensemble assez calme.
Vous pensez que vous êtes apaisé parce que vous avez appris à vivre avec cette maladie, vous l'avez stabilisée, apprivoisée. Est-ce que vous pensez que c'est de là que vient votre apaisement?
Ben, disons que... J'ai su qu'en adolescence, quand j'avais 17 ans, j'étais un adolescent assez turbulent, un peu.
Oui.
J'étais un peu agité, j'étais en crise, je faisais des séjours en psychiatrie.
Ah oui, yes. Oui.
Ah oui, puis cordon médical, j'étais bien suivi, j'étais suivi par une experte en psychiatrie qui m'a suivi pendant une vingtaine d'années. Je suis toujours en contact avec des médecins qui m'entourent médicalement. Aujourd'hui, je vois aussi une psychologue.
Oui.
Ça m'aide beaucoup. Je fais aussi une thérapie avec une psychanalyste.
Oui.
J'ai un médecin traitant aussi, un médecin généraliste.
Donc vous avez mis beaucoup de paroles dans votre vie.
Oui, tout à fait.
Claude, on vous remercie pour votre témoignage parce que ce qu'il démontre, c'est que même avec un parcours très difficile et un problème qui n'a pas pu être tout à fait résolu, vous avez quand même trouvé une forme d'apaisement. Bon, pour vous, ça a été par la parole, mais quelle que soit la voie, il est possible de trouver une vie apaisée malgré ses difficultés. C'est vraiment un témoignage d'espoir. Merci, Claude.
Merci.
Et très bonne continuation à vous.
Sabine Calégari sur RTL. Parlons-nous. Jusqu'à minuit, parlons-nous. Sabine Calégari sur RTL.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour ce dernier temps de Parlons-nous, où nous continuons à vous écouter, toujours au 09 69 39 10 11. Et avant de nous quitter, nous recevons Marie-Claude qui souhaite réagir à l'histoire pleine de vie de Margot. Bonsoir Marie-Claude.
Bonsoir. Sabine,
oui,
je souhaite parler au sujet de Margot, un sujet très fort.
Oui, très fort.
Oui.
Que vous a-t-il inspiré?
Ben, disons que c'est vrai qu'elle fait, elle fait une voix jeune déjà.
C'est vrai, c'était surprenant.
Oui. Puis alors ce parcours de vie, d'avoir vécu la guerre, tout ça, c'est joli. C'est joli en même temps et c'est poignant et c'est... C'est vrai, hein, moi,
c'est fort.
J'ai 66 ans, j'ai pas vécu la guerre, mais je suis née en 55, mais c'est des choses que mes parents m'ont raconté, tout ça.
Oui, qui étaient encore présents dans votre enfance.
Oui. Maman, elle a pas été déportée, mais elle a, comment qu'on appelle ça, elle est allée en Moselle pour, je sais plus comment on appelle ça, la Deuxième Guerre.
Oui.
Alors, elle s'est déplacée avec, si vous voulez, tout le mobilier, ou je ne sais plus comment ça s'appelle.
Oui. Et est-ce qu'elle aussi, elle a réussi à vous transmettre une histoire qui ne soit pas seulement une histoire de tragédie, mais qui soit une histoire de vie?
Oui. Et puis moi, je suis originaire de Lorraine. Et puis moi, je suis ici de familles nombreuses aussi. Alors, disons que mon parcours de vie, quand on est dans des grandes familles, on s'entraide. Moi, j'ai qu'une sœur. J'ai 5 frères,
oui.
Mais bon, j'ai été un petit peu être familiale, tout ça. puis bon, moi après, j'ai perdu la vue aussi.
Ah
donc
oui.
Ma vie a été un petit peu différente, parce qu'il a fallu que je me remette en question.
Ça fait combien de temps que vous avez perdu la vue?
Je souffre de rétinite pigmentaire,
oui.
Et c'est évolutif, mais pas dans le bon sens.
Oui.
J'ai eu des cataractes, j'ai été opérée. Bon, ça a été bien fait, mais...
Vous avez, à cet égard, une histoire avec la maladie proche de Julien, qui était la première personne qu'on écoutait.
Oui. Et il faut... C'est, au quotidien, c'est difficile, parce que tous les jours, on se dit comment on va finir la journée, c'est vrai. Hein.
Oui, vous avez d'abord des problèmes de survie et de vie quotidienne.
Oui, voilà. Parce que bon, ben, c'est pareil, il faut que je gère avec... Parce que je vis toute seule, je gère avec des auxiliaires de vie, et c'est tout un...
C'est toute une organisation.
Oui, voilà, oui. On a pas la, on, c'est difficile en même temps et il faut tout gérer.
Oui. Oui.
C'est, quand on est seul aussi, c'est encore plus difficile.
Oui.
C'est pas parce que je veux me jeter des fleurs, mais.
Oui, en tout cas, vous avez à faire face à des problèmes bien concrets. Il n'y a pas d'autre choix que les traiter.
Oui.
Et aujourd'hui, comment vous vous sentez, Marie-Claude?
Ben, ça dépend des moments. Hein. Oui. Moi, c'est ce qui me sauve, c'est la musique, la lecture, parce que je lis le braille.
Oui.
Et j'aime bien de lire le braille. Je lis l'abrégé, l'intégrale. Et parce que bon, ben, sous les doigts, j'ai la dextérité. Et puis ça me pour l'orthographe, pour tout ça, vous voyez.
Oui. Vous avez des préférences dans vos lectures? Est-ce que vous vous tournez toujours vers un certain type de texte?
Ah ben, j'aime bien les romans. Oui. L'eau de rose, et puis voilà.
Oui.
Et puis, bah, je prends des livres, je ne sais pas si vous connaissez, à la VH de Paris, à la médiathèque.
Oui.
Je
donc
suis
des
abonnée.
Livres, des livres audio.
Oui, voilà. Non, je prends tout ce qui est braille plutôt.
Ah, d'accord.
Et je prends, parce que, bah, toujours pour avoir sous les yeux le braille et tout ça. Et je suis abonnée à des revues féminines, le Louis Braille. Si vous avez déjà entendu parler des revues féminines qui s'appellent Avantage, il y a des recettes de cuisine et j'adhère à tout ça et j'aime bien. Moi, à ma maison, il y a 3 bibliothèques.
Ah oui, donc vous avez réussi à reconstruire tout univers autour de vous.
Et c'est mon refuge. Quand j'ai de l'insomnie, ben je lis et ça m'aide à m'endormir.
Ce que vous dites montre quelque chose qui est vraiment une faculté humaine, c'est la faculté de l'imaginaire. Là, comme on disait, on se défend du réel au moyen de l'imaginaire. Et il est vrai qu'il y a dans l'imaginaire des possibilités infinies. Vous les trouvez dans les romans.
Oui.
Et vous arrivez aussi à faire vivre vos passions, donc vous aimez la cuisine, j'imagine.
Oui, ben, c'est un peu difficile aussi parce que la cuisine c'est difficile. Imaginez quand il faut retourner un bistec, c'est toute une affaire.
Alors vous savez, à propos d'affaires, je vois arriver des SMS qui admirent votre courage et des questions très simples qui arrivent, des questions pratiques. Comment fait-elle pour payer ses courses?
Ben, les auxiliaires de vie, ça sert à ça, mais il faut que j'ai confiance en elles, quoi.
Oui.
Que ce ne soit pas des voleuses.
En tout cas, je comprends le sens de cette question, c'est que la personne réalise que quand on a à faire face au handicap que vous avez, on a toutes sortes de problèmes de vie quotidienne à traiter, auxquels on ne pense même pas quand on est en bonne santé.
Regardez, quand il faut, moi j'ai des plaques électriques, par exemple.
Oui.
Quand il faut mettre la poignée vers l'intérieur pour ne pas faire tomber la poêle.
Oui.
C'est toutes des choses comme ça.
Mais oui.
Et puis, pour laver mon linge, tout ça, bah c'est pareil, mais je le fais toute seule.
Est-ce que vous avez remarqué, Marie-Claude, à quel point notre cerveau peut enregistrer des automatismes et des informations qui deviennent ensuite absolument naturelles?
Oui, voilà. Et moi, vous voyez, c'est pas... Moi, le téléphone, je compose tout seul parce qu'il y a le numéro 5.
Oui.
Hein, puisque je vous ai appelé, donc...
Oui, tout à fait. Là, peut-être, pour...
Et puis aussi, ça fait entretenir la mémoire.
Ça, c'est très juste.
Il y a des gens qui me disent oui.
Oui. Peut-être on peut faire un petit...
On est robotisé, donc il faut tout faire travailler, quoi.
Marie-Claude, tout ce que vous dites illustre quelque chose que nous savons aujourd'hui du cerveau avec le neurosciences et qui peuvent nous donner énormément d'espoir. Vous savez que nous pouvons, en 72 heures, faire de nouvelles connexions neuronales. Donc les neurones s'organisent en circuits complexes, elles se corrèlent entre elles pour pouvoir faire des tâches nouvelles, des tâches complexes qui ensuite deviennent comme de nouveaux automatismes. Donc quand on est face à des problèmes comme ceux que vous rencontrez, au début on se sent certainement très démunis, et dès qu'on apprend à notre cerveau à faire une nouvelle tâche, les connexions se font et ça devient, comme on dit, une compétence inconsciente et on retrouve d'autres gestes naturels, ce qui rend bien sûr la vie supportable parce que vous ne pourriez pas penser à chaque geste quotidien à chaque instant.
Bah oui, regardez, avec ces maladies, tout ce qui m'est tombé dessus. En plus, c'est héréditaire, c'est familial. La rétinite pigmentaire doublée de cataracte et puis tout ça, malgré les opérations. Alors le premier chirurgien qui m'avait opéré, il a bien fait le travail, tout ça, parce que j'ai fait du laser. Et il imaginait que j'allais revoir.
Ah oui, donc il vous a donné cet espoir.
Il me faisait les gestes comme quoi, combien je voyais de ses doigts. Parce que la médecine n'a pas encore bien... Ça sera pour les jeunes générations, je l'espère.
Marie-Claude, nous vous remercions vraiment pour votre témoignage qui donne l'idée qu'on peut compter sur ses propres ressources, même quand il n'existe pas encore de ressources médicales. Espérons qu'elles viennent un jour. Mais en tout cas, vous avez réussi à réorganiser votre propre vie et c'est vraiment une leçon de courage pour nous tous. Merci beaucoup, Marie-Claude.
Je suis contente d'avoir passé à l'antenne et puis vous êtes agréable à écouter. Et puis voilà.
Ah, c'est un plaisir pour nous. Merci, Marie-Claude. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et c'est la fin de notre échange pour ce soir. Je vous retrouverai demain en direct dès 22h, c'est le 14 juillet, mais nous serons bien là à vos côtés. N'hésitez pas à nous appeler au 09 69 39 10 11. C'est vous qui choisissez votre sujet et ils sont tous bienvenus. Je vous souhaite une excellente nuit. RTL, il est...